tout ce spectacle. Tout ce spectacle, l'actualité du spectacle vivant à Toulouse et dans la région. Une émission présentée par Emmanuel Gaillard.
Bonjour à toutes et à tous. Les journées continuent de s'allonger et avec elles l'envie de sortir, d'aller au spectacle, notamment du côté de Tarbes, où la scène nationale Le Parvis propose une programmation pluridisciplinaire de spectacles de grande qualité, que ce soit en matière de théâtre, de musique, de danse, de cirque, d'humour ou de jeune public. Et ce, toute l'année, tout au long d'une saison qui s'entend d'octobre à mai. Et pour parler de ce lieu et de cette programmation, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Esquéré, le directeur de cette scène nationale de Tarbes. Bonjour Frédéric.
Bonjour Emmanuel.
Tout ce spectacle, l'interview.
Alors, donc, cette scène nationale qui existe depuis bientôt 50 ans, tu diriges donc Le Parvis depuis 2 ans, donc depuis relativement peu de temps. Alors, quelle est la particularité de, à la fois du lieu et puis de la mission du Parvis ?
Alors, il y a une double particularité au Parvis. La première, c'est son lieu d'implantation, puisque effectivement, c'est un projet très particulier, puisqu'en 1974, le premier grand centre commercial s'est ouvert dans les Hautes-Pyrénées. Et il se trouve qu'à l'époque, un professeur de philo était le beau-frère de la personne qui ouvrait ce grand centre commercial. Il est allé la voir pour lui dire « Voilà, tu me construis un espace forum au sommet de ce centre commercial parce que ça va être les nouveaux centres-villes de demain et c'est là que les publics seront et c'est là qu'il faut mettre la culture donc sur le trajet des nouvelles pratiques populaires. » Et donc c'est comme ça qu'est né Le Parvis, donc au départ d'une initiative complètement privée. Et en 1974, la programmation était très, très engagée, puisque pour les moins jeunes de nos auditeurs, je pense que ça va parler, mais il y avait le Living Théâtre, Léo Ferré, donc une programmation très engagée. Et donc du coup, très très vite, le Parvis a attiré sur lui les projecteurs et du coup le ministère de la Culture a tout de suite repéré ce lieu, puisqu'on était quand même à l'époque dans le Grand Sud-Ouest sur un relatif désert culturel, en tout cas en termes de structure labellisée par l'État. Et donc tout de suite, au milieu des années 70, le Parvis a obtenu une reconnaissance du ministère et est devenu de fil en aiguille, au début des années 80, sous le ministère Langue, il a obtenu le label de CDC, Centre de Développement Culturel. Puis, à la création du label de scène nationale en 91, il a obtenu ce label-là. Donc ça, c'est la première particularité, c'est son implantation donc au-dessus d'un centre commercial. On s'appelle scène nationale Tarbes-Pyrénées, mais on est déjà à 5 km de Tarbes, donc c'est déjà un peu particulier. À Ibos, c'est
ça. À Ibos, dans un très beau village par ailleurs.
Exactement, avec une très belle collégiale qu'on utilise d'ailleurs pour certains concerts. Et la deuxième particularité, c'est notre triple activité, c'est-à-dire que une scène nationale lambda fait du spectacle vivant et a parfois une petite activité annexe, une activité d'exposition ou une activité de cinéma, par exemple. Nous, on a réellement une triple activité, puisque nous avons 3 salles de cinéma classées A, R et C, et on gère également 12 salles de cinéma dans le département, donc un réseau de cinéma de proximité. Et ensuite, nous avons un centre d'art contemporain qui est en passe d'être labellisé d'intérêt national. Donc un gros centre d'art contemporain avec une programmation très importante aussi. Donc c'est vraiment la deuxième particularité de ce lieu avec cette triple activité. On essaie de travailler justement sur les passerelles entre les différentes disciplines. Donc tu évoquais la diversité du spectacle vivant, mais nous on est vraiment sur la transdisciplinarité cinéma, art contemporain, spectacle vivant.
C'est très intéressant et c'est évidemment une particularité tout à fait exceptionnelle, hein, puisqu'il y a très très peu de centres culturels ou de salles de spectacle qui sont ainsi que configurés dans le sud-ouest et au-delà même.
Effectivement, le fait d'être dans un centre commercial, on est 2 scènes nationales en France, et le fait d'avoir cette triple activité, cinéma, art contemporain et spectacle vivant, on est également 2. L'autre scène nationale de cette dimension, c'est la Ferme du Buisson, donc en région parisienne.
Très bien. Et alors, est-ce que finalement, c'est un atout d'être dans un centre commercial ? Il faut dire aussi que cette salle de spectacle est magnifique. Est-ce qu'elle était déjà là en 1974 ou est-ce qu'elle a été finalement rajoutée en quelque sorte dans le volume du centre commercial ?
Alors, au départ, ce n'était pas cette salle-là. La salle que l'on connaît aujourd'hui a vu le jour au milieu des années 80. En fait, en 80, les travaux ont eu lieu entre 85 et 87.
D'accord.
Et la salle actuelle, elle date de cette époque-là. Après, pour répondre à la triple question, puisque donc, donc effectivement, la première chose, c'est de quand date la salle. La seconde, c'est quel est l'avantage d'être dans un lieu comme ça? Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? Alors, moi, je crois que c'était d'abord une utopie hein, que d'essayer de mettre cette
la culture dans un centre commercial.
Voilà, et de faire en sorte qu'on d'essayer de toucher peut-être des publics qui ne viendraient pas dans les salles comme les nôtres, donc en devenant un peu sur leur trajet, on va dire, de consommation finalement. Alors après, c'est vrai que c'est assez complexe puisque déjà, il y a une problématique géographique ou physique ou je sais pas comment, architecturale, je sais pas comment il faut dire, puisque donc le centre commercial est en rez-de-chaussée, hein, comme tous les centres commerciaux, donc c'est de plein pied, etc. Et ensuite, éventuellement, si le peuple qui consomme, si éventuellement il veut s'élever par la culture, il peut monter à l'étage. Donc déjà, ça c'est déjà quelque chose d'assez complexe. Et donc nous, la première chose à laquelle on travaille, c'est justement cette relation, en gros, entre le haut et le bas, et le bas et le haut, comment on essaie de faire en sorte que les publics aient envie, finalement, de venir
monter
voir
les
ce,
marches,
qui se passe, ce qui se passe à l'étage. En sachant que le centre d'art, c'est gratuit, donc ça veut dire que les gens peuvent venir visiter les expositions toute l'année. Donc ça, c'est pour nous, c'est une première entrée importante parce que, justement, la gratuité, les gens qui flânent une fois qu'ils ont fait leurs courses, c'est vrai qu'ils peuvent passer quelques temps dans le centre commerce, dans le centre d'art contemporain. Donc c'est vrai qu'on essaie de travailler sur cette relation-là. Et puis après, on a aussi l'idée de se dire, tiens, peut-être que parfois, des personnes qui font les courses peuvent venir nous laisser leurs enfants, alors c'est pas une garderie, hein, mais pour justement voir un film, faire un atelier d'art plastique. Donc on essaie de travailler sur cette relation-là, y compris en proposant des spectacles en déambulation au sein même de la galerie commerciale ou parfois des expositions qui s'externalisent et qui vont justement essayer de s'immiscer,
de déborder
dans la galerie commerciale.
Sur la partie commerciale.
Voilà. Donc ça, c'est... En fait, c'est vrai que c'est très compliqué. Nous, on travaille un peu en cercle concentrique, c'est-à-dire que d'abord, on essaie de travailler sur notre territoire d'implantation, donc cette relation avec le centre commercial, puis sur la relation avec la ville de Tarbes, puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est à Ibos et pas à Tarbes, donc à 5 km du centre-ville, donc il y a aussi une relation un peu particulière à essayer de nouer, de tisser, notamment sur les questions des mobilités, hein, puisque, on est, encore une fois, on n'est pas un théâtre de centre-ville.
Et il n'y a pas de transport en commun ?
Il y a des transports, justement, on essaie de mettre en place ces services-là pour que les personnes qui ne veulent pas prendre leur voiture le soir puissent justement venir par les transports en commun. Et après, on est dans un département très rural, donc on travaille aussi sur la relation avec l'ensemble des territoires qui sont... Alors, quand on parle des Pyrénées, on pense tout de suite stations de ski, montagne, neige. Alors, c'est vrai, hein, on a 5 vallées dans les Hautes-Pyrénées, mais il y a aussi toute une partie du département qui est une vaste plaine qui va vers le Gers, vers Marciac, par exemple. Si Maubourguet, le nord du département, c'est tout près de Marciac, qu'on connaît pour son festival. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce travail-là qui est très important pour nous tout au long de l'année, en essayant de travailler justement sur la relation entre le parvis, entre notre lieu de centralité quoi, et les territoires. Voilà.
Alors parlons de la salle de spectacle proprement dite. C'est donc une grande salle, une très très belle salle hein, qui est formatée pour accueillir de grands spectacles. La capacité, tu peux la repréciser?
Oui, bien sûr. Donc on a 750 places. Donc c'est un peu plus petit. Moi j'ai passé quelques années à Albi, donc la scène nationale d'Albi a 900 places. Au-dessus de c'est plus de 1000.
C'est 1000, oui.
Voilà, donc on est un peu moins
dimensionné. Mais c'est dans le format approximatif.
C'est ça, et puis c'est vrai que c'est un format en tout cas qui correspond aussi à notre ville et à notre département. C'est vrai que si on oublie Toulouse, qui est à 1h20 de route, si on oublie Bayonne, qui est à 1h20 de l'autre côté, c'est vrai qu'on est la seule salle dimensionnée comme ça sur le territoire. Donc c'est vrai que c'est important.
Alors, en matière de spectacle vivant, une scène nationale a donc des missions assez particulières. Est-ce que tu peux les développer? Puis après, évidemment, on va parler des spectacles bien concrets, les coups de cœur, les événements à ne pas louper. Mais déjà sur les missions, alors.
Alors, effectivement, nous, la première mission, c'est la production, la diffusion artistique. C'est-à-dire que, encore une fois, on est... Contrairement à, justement, on parlait de Toulouse où il y a plusieurs lieux, plusieurs théâtres dans, à Toulouse et dans l'agglomération. Nous, on a une situation de quasi-monopole, en tout cas sur la dimension de ce qu'on propose. Donc c'est vrai que cette mission de diffusion, elle est très importante, à la fois dans les murs et hors les murs, avec un travail territorial très très important, puisqu'en gros, on fait 200 représentations par an, et sur les 200, il y en a 120 qui ont lieu dans nos murs, et 80 hors les murs, dans une trentaine de communes.
Ouais, ce qui est énorme.
Voilà, donc on travaille vraiment cette relation, cet aller-retour avec le territoire, en gros, des spectacles de format adaptable, notamment à des espaces non dédiés, des salles des fêtes, etc., que l'on propose sur le territoire, et ensuite des grands spectacles qu'on ne peut voir qu'au Parvis, et à ce moment-là, donc on travaille justement sur ces questions de mobilité collective pour faire venir des publics du territoire dans notre salle. Donc cette première mission, c'est la diffusion. La seconde mission qui est très importante aussi, c'est le soutien à la création artistique, c'est-à-dire qu'on a une activité de coproduction, c'est-à-dire qu'on a, on donne donc des enveloppes de production à des équipes artistiques pour qu'elles puissent fabriquer leur, leur spectacle. Donc ça, c'est une vraie mission. On essaie aussi de les accueillir en résidence, même si notre lieu n'est pas tout à fait dimensionné pour cela, mais on travaille justement en partenariat aussi avec d'autres lieux, notamment sur la ville de Tarbes, une structure qui s'appelle Tarbes en scène, qui gère à la fois un théâtre à l'italienne et un ancien cinéma qui a été reconverti en salle de spectacle. On essaie de travailler sur des résidences avec, avec cette, cette structure et avec d'autres petites structures sur, sur le territoire. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Et puis, bien sûr, on a une très grosse activité en termes d'éducation artistique et culturelle, puisque entre le spectacle vivant et le cinéma et le centre d'art, on touche en environ, on fait en, environ 50 000 entrées en direction de la jeunesse par an.
Très important,
voilà, ce qui est très important. Et sur le spectacle vivant, pour avoir un ordre d'idée, on est en gros à 15 000 entrées en temps scolaire sur le spectacle vivant, ce qui est vraiment une activité très dense, finalement.
Ah oui.
plus dense que dans d'autres scènes nationales, mais parce justement, il y a aussi un historique et un appel aussi du territoire. Pour cela, et puis bien sûr, on développe un gros travail d'action culturelle en direction de tous les publics. On essaie de faire en sorte que notre lieu soit un lieu inclusif. Donc on travaille notamment en direction des publics les plus éloignés, que ce soit géographiquement, socialement. On pense tout de suite, quand on parle, alors surtout quand on est dans un milieu urbain, on pense tout de suite aux quartiers dits prioritaires, politiques de la ville. Nous, c'est pas que ça, c'est aussi notamment la ruralité profonde. Il y a une jeunesse qui est dans la ruralité, qui a besoin aussi de travailler,
de découvrir
ce qu'on fait, bien sûr. Et puis on développe des projets culture, justice, culture santé, et on a un gros travail aussi sur l'accessibilité des œuvres en direction des publics en situation de handicap, notamment de handicap sensoriel, les malvoyants, aveugles, populations sourdes, voilà. Donc on essaie de travailler vraiment à faire en sorte que notre lieu soit vraiment inclusif, quoi.
Ouais, les publics dans toute leur diversité.
Exactement.
En fait, c'est ça qui est important. Alors justement, les spectacles un peu de poche qui circulent en décentralisation un peu partout dans le département, jusque dans des petites villes ou des gros villages, est-ce qu'après les gens qui ont assisté à ces spectacles, ils ont envie et ils vont assez spontanément aux plus grands spectacles qui ont lieu dans la grande salle qui est à Ibos, ou pas forcément, en fait?
Alors, il n'y a pas un rapport de cause à effet direct, quoi, je crois, entre ce qu'on fait sur le territoire et ce qu'on fait chez nous. En revanche, on met en œuvre, on va dire, les dispositions pour faire en sorte que ce soit possible. C'est-à-dire notamment un travail sur les mobilités collectives avec des transports en bus, en fait, qu'on travaille avec les communautés de communes, notamment les communautés de communes les plus rurales.
D'accord.
Qui affrètent des bus pour venir au Parvis, et qui font... Par exemple, on a, donc je sais pas, je peux citer l'exemple de des vallées d'Or et du Louron, qui sont des vallées assez connues, puisque le Tour de France les traverse quasiment tous les ans. Et c'est vrai que donc on fait un ramassage qui part quasiment de la frontière espagnole, et qui descend de Saint-Lary, Arreau, Saint-Rancolin, Lannemezan, et donc il y a un ramassage qui se fait dans un sens comme un bus scolaire en fait.
Oui, et puis ce qui est sympa, c'est qu'il doit y avoir une vie dans le bus.
Exactement.
Les gens se parlent, se rencontrent.
Exactement.
Est-ce qu'il y a un bar dans le bus? Non,
il n'y a pas de bar. Non, mais ça, c'est peut-être sa prochaine étape.
Ouais, parce que la convivialité qui a un maître mot, elle peut être non alcoolisée,
bien entendu,
soyons bien clairs. Bon.
Bien sûr, mais pour juste terminer sur cette question-là, c'est vrai que Ce qui est important aussi, on essaie de trouver des projets avec des équipes artistiques qui ont, alors ça c'est pas toujours le cas, mais cette année il y en a plusieurs, je pense notamment aux 26 000 couverts. Donc les 26 000 couverts cette année ont présenté par exemple une grande forme qui s'appelait Chamonix, qui est une comédie musicale totalement déjantée, donc qui est une très grosse forme, donc au Parvis. Et en même temps, ils ont une toute petite forme qui s'appelle Jacques et Mylène, qui est un duo et qui circule sur le territoire. Et donc, on essaie de travailler justement sur cette liaison entre le territoire et
très bien, lieu. Très bien, très bien. On va marquer une première pause musicale.
Attends, on est quand? Attends, tout le monde n'est pas rentré. Il reste des gens dehors. Ils arrivent, attends, par grappe. Des grappes de gens qui débarquent. C'est beau. Ah, c'est de l'eau qui fuit dans le chapiteau.
Alors Frédéric, on a beaucoup parlé des missions du Parvis, scène nationale de Tarbes. Parlons à présent des spectacles des prochaines semaines, des prochains mois. Alors quels sont les événements à ne pas louper, les surprises, les coups de cœur?
Mais peut-être on pourrait parler des temps forts qui ponctuent un peu la saison. Donc nous, on n'a pas la vocation à développer des festivals, mais on a un premier temps fort aux vacances de février qui s'appelle Le Grand Jeu, et qui est un temps consacré à l'enfance, à la jeunesse et aux familles, et notamment à toutes celles qui ne partent pas en vacances. Donc on travaille beaucoup avec les centres de loisirs, notamment sur la période, puisque c'est vraiment pendant les vacances de février, avec des spectacles, des séances de cinéma, des ateliers. On alterne à la fois le fait de donner accès à des œuvres et à des rencontres avec des artistes, mais également à des ateliers de pratique. Et donc je parlais beaucoup de transversalité entre nos différentes disciplines. Là, pour le coup, on est vraiment sur de la transdisciplinarité. Donc on a notamment le bal des Lucioles avec Johan Brett, qui propose vraiment un spectacle autour de l'adolescence. Et Johan Brett, en parallèle, monte un week-end qui s'appelle Extrême Ado, où il prend 20 adolescents le vendredi soir, et dans l'urgence, en 48 heures, il crée un spectacle avec eux qui est présenté le dimanche soir. Donc c'est pour donner une idée. Donc ça, il y a une grosse programmation avec des choses tous les jours pendant toutes les vacances de février. Ensuite, on a un autre temps fort autour du Pays Basque. Nous, on n'est pas très loin du Pays Basque, mais nous ne sommes pas le Pays Basque.
Non. Pas le Béarn.
Pas le Béarn, c'est la Bigorre, exactement.
C'est la Bigorre.
Et donc, on a un temps fort qu'on a appelé Walk on the Basque Side, avec trois spectacles. Un spectacle qui s'appelle Guernica, par le collectif Bilaka et Martin Aria, qui travaille beaucoup avec les Malandins Ballet de Biarritz. Et donc là, c'est une revisitation de la danse traditionnelle basque à la sauce moderne, autour donc de la thématique du drame de Guernica. C'est magnifique spectacle qui a été créé l'année dernière. C'est une coproduction de la scène nationale de Bayonne et du Parvis d'ailleurs. Ensuite, on a un spectacle de théâtre en langue basque qui s'appelle Ondamendia, par une compagnie qui s'appelle Hatshut, et qui s'intéresse à un drame écologique et humain, avec l'effondrement d'une décharge à ciel ouvert à côté de Bilbao, qui est intervenue en février 2020, 15 jours avant l'arrivée de la pandémie en France, et qui a été complètement passé sous silence, puisque notamment médiatiquement, ça a été complètement noyé par les histoires de pandémie. Et donc il revient sur cette histoire-là, donc spectacle en basque surtitré en français, avec une énergie incroyable, 9 comédiens au plateau, de la vidéo, du son, vraiment un très beau travail. Et on finit ensuite avec une proposition qu'on fait à Bagnères-de-Bigorre en collaboration avec le Cartel Bigourdan, qui est une association qui travaille autour des musiques actuelles, avec un plateau, avec Bilaka aussi qui fait un bal traditionnel, et deux jeunes compagnies basques, Orbel et Loumi, sur les musiques actuelles, plutôt on va dire de l'électro basque. Voilà.
Très bien, très bien, très bien. Bon, je vois que les Pyrénées, ça circule alors. Ouais, d'une vallée à l'autre, d'un terroir à l'autre, c'est évidemment très important. Et puis j'ai repéré quand même la venue, ce qui est quand même un sacré événement, d'une immense compagnie de danse contemporaine, c'est la Batsheva.
Tout à fait.
Très fameuse compagnie israélienne.
Exactement, donc dirigée par Ohad Naharin, qui vient donc, je n'ai plus les dates en tête, je crois que c'est au mois
le
de mars.
Le 20 et 21 mars.
Ouais, voilà, donc...
Ça fera l'événement en matière
de
danse.
Hein, exactement, et c'est vrai que on a fait là, on travaille aussi sur des collaborations, c'est une circulation Bayonne... Tarbes, Albi, donc
Albi.
La compagnie fait ses...
Oui, pas le public, oui.
C'est une mini-tournée qu'on a organisée en région. Voilà. Donc il y a plein d'autres temps, bien sûr. On a un temps plutôt en mai autour de propositions circassiennes qui s'appelle À ciel ouvert avec la dernière création du cirque Aïtal. Et puis Jazz Magic, une toute petite forme qui va tourner en itinérance avec Antoine Thérieux qui fait de la magie nouvelle. Bon, voilà, on a... certain nombre de rendez-vous comme ça qui émaillent la saison, les mois qui viennent en tout cas.
Très bien, Frédéric, merci en tout cas pour à la fois la présentation du projet et puis nous mettre l'eau à la bouche avec quelques spectacles marquants des prochaines semaines. En tout cas, le public peut découvrir tout cela plus en détail sur le site internet, bien entendu, du Parvis.
Tout à fait.
À Tarbes.
Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci, Frédéric. À bientôt.
À bientôt.
Tout ce spectacle, les rendez-vous à ne pas manquer.
Voici ma sélection de spectacles, que ce soit à Toulouse ou en région. À Toulouse tout d'abord, en matière de cirque, eh bien, c'est la compagnie Rasposo qui va présenter son spectacle Oraison. C'est le titre du spectacle, du 15 au 25 février à la Grainerie de Balma, en partenariat avec le Théâtre Sorano. C'est un magnifique spectacle qui oscille entre les disciplines traditionnelles du cirque forain et dans une optique, une philosophie assez contemporaine. Donc voilà, en tout cas, une magnifique proposition que j'ai vue moi-même il y a 2 ans au Festival Circa de Auch, et donc que les Toulousains vont pouvoir découvrir donc du 15 au 25 février à la Grainerie. En matière de théâtre, du 10 au 11 février, donc c'est les 2 dernières représentations de L'embarras du choix. C'est un spectacle très divertissant de Sébastien Azzopardi qui sera donné à la Salle Nougaro à Toulouse, dans le quartier des Sept-Deniers. C'est un spectacle interactif puisque les spectateurs en fait vont décider en quelque sorte du déroulement du spectacle, en notamment avec le personnage principal qui se pose des questions sur sa vie, ses choix de vie, des questions un peu existentielles. Et donc évidemment sur le mode du divertissement interactif, le public va indiquer au personnage principal vers quelle direction il doit aller, vers quel choix de vie il doit s'orienter. Et donc ça oriente du coup le déroulement de la pièce. Voilà, donc les 10 et 11 février à la Salle Nougaro. En matière de danse, le festival Ici et Là se termine, donc ce festival de danse contemporaine proposé par le Centre de développement chorégraphique jusqu'au 16 février. Il y a quelques beaux rendez-vous encore ce week-end. Les 10, 11 et 12 février au Théâtre de la Cité, c'est le Ballet du Capitole qui donnera son programme Paysage intérieur avec des chorégraphies de Caroline Carlson et Thierry Malandin. Les 15 et 16 février au Théâtre de la Cité toujours, First Memory de Noé Soulier. C'est un spectacle de danse plus contemporaine qui propose une chorégraphie qui détourne les mouvements quotidiens de leur fonction initiale à travers une composition de gestes à la fois puissante et précise. Et puis, dans le cadre de la programmation d'Audi Sud à l'Aria de Cornebarieux, le groupe Nos Je suis Tigre, un très très joli spectacle qui est donné ce dimanche 12 février à 16h. C'est un spectacle jeune public, très raffiné, voilà, avec les illustrations d'Anaïs Massini qui explore les thèmes de la tolérance et de l'amitié sans frontières, puisqu'il s'agit de personnes, de migrants, de réfugiés. Voilà pour la danse. À présent, en matière de musique, beaucoup de rendez-vous, comme toujours, notamment à la Halle au Grain de Toulouse, où le dimanche 12 février, j'ai dû vous en parler déjà 3 ou 4 fois, c'est le grand André Manoukian qui viendra avec son spectacle intitulé « Mes rêves d'Orient ». Donc c'est une balade très sensuelle entre jazz et instruments traditionnels arméniens. Et puis on le sait, André Manoukian, c'est un conteur, c'est un charmeur. Ce sera donc un moment avec une très belle sensibilité. Peu après, toujours à la Halle au Grain, il y aura Renaud Capuçon et l'Orchestre de Chambre de Lausanne qui donnera un concert, donc un programme classique avec ce très grand violoniste que chacun connaît. Et puis le 14 février, dans le cadre de la saison des Arts Renaissance, ce sera le Sirba Octet qui se produira, un groupe assez impayable et avec beaucoup d'énergie. Et le lendemain, la salle Nougaro, le 15 février donc, c'est un chanteur martiniquais, David Walters, qui se reproduira. Je termine pour la musique avec du 15 au 17 février, au Théâtre Garonne à Toulouse, toujours, Daphné de Wolfgang Mitterer, dans une mise en scène d'Aurélien Bory. Il s'agit là d'un opéra contemporain, mais en hommage et en écho en quelque sorte à la musique baroque de Schütz. Et puis en matière d'humour, eh bien en février, donc mi-février à l'Aria de Cornebarieux dans le cadre de la saison de 18, c'est Alex Vizorek qui viendra dans son dernier spectacle qui s'intitule Ad Vitam. Voilà où il est question de vie, de mort et du reste, si on peut résumer le pitch. En région à présent, eh bien, outre les nombreux spectacles proposés par la scène nationale de Tarbes et Frédéric Esquéré ici présent, dans le Tarn, il y aura la tournée « Je vous aime » dont je vous ai parlé la dernière fois, qui se déroule dans une dizaine de villes et de villages du Tarn du 7 au 15 février. À Montauban, le 11 février, ce sera la pièce « Intramuros » de Frédéric Michali qui sera donnée et donc qui, comme son nom peut l'indiquer, se déroule dans une prison. Les 14 février, ce sera « Les bonnes » de Jean Genet qui sera donné toujours à Montauban. Et le 11 février, à Cahors, le grand chanteur français qu'on adore, Manu Galure, qui se produira. Voilà donc ma sélection de spectacles. Merci à Francky Guéret qui a réalisé cette émission. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de sortir dans les salles de spectacle les plus proches de là où vous êtes ou si vous êtes en déplacement, de vous intéresser aux salles de spectacle qui donneront des représentations ces jours-ci. Et je vous souhaite une très bonne semaine.